Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te bénissons pour ce moment que nous venons d'avoir. Un moment d'avant-goût de la joie qui nous attend dans ton royaume. Merci pour la présence de chacune et chacun qui a été là pour participer à cette table sainte. Nous demandons, Seigneur, que tu nous aides à garder notre foi pour que nous soyons présents au grand rendez-vous. Et maintenant que nous voulons t'écouter, nous demandons que tu disposes nos cœurs, qu'à travers le messager que tu nous as préparé, Seigneur, tu nous communiques ta pensée et que tu taises toutes sortes de bruits, tout esprit maléfique qui voudrait nous distraire. Laisse, Seigneur, qu'en quittant ce lieu, nous puissions être bénéficiaires de tes grâces insondables. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Est-ce que tu peux m'aider à acclamer très bien le Seigneur ce soir? Tu vas saluer aussi la personne qui est à côté de toi et dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Avant de commencer les messages d'aujourd'hui, j'aimerais m'acquitter de certaines civilités. J'aimerais dire merci à Dieu qui m'a fait cette grâce de me tenir devant vous cet avant-midi. J'aimerais dire aussi merci au pasteur principal de l'Église et à tous les consistoires qui ont fait confiance à notre personne et ils nous ont cédé la chair pendant une semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais aussi dire merci à mon pasteur qui a accepté que nous puissions être aussi à l'Église Gomaville pour partager la parole de Dieu. Et j'aimerais dire aussi merci à mon épouse qui n'est pas là et qui nous fortifie, qui nous accompagne dans l'œuvre que nous sommes en train d'accomplir pour le Seigneur. J'aimerais aussi dire un grand merci pour le révérend Isaac qui m'a précédé pour la première semaine et il nous a fortement bénis. Et aujourd'hui, nous serons en train de clôturer le message que nous avons commencé depuis le lundi. Je nous prie de nous lever pour honorer la parole de Dieu. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Je nous propose quelques portions d'écriture. La première portion, nous allons prendre 2 Timothée 2, 20 à 21. 2 Timothée 2, 20 à 21. La deuxième portion, Matthieu 25, 1 à 13. Troisième portion, nous allons lire Hébreux 12, 15 à 17. Hébreux 12, 15 à 17. Et enfin, nous allons lire Jérémie 18, 18 à 20. Je conduis la lecture au nom de Jésus. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, j'aimerais que tu soulignes cela très bien. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Matthieu 25, 1 à 13, la Bible déclare. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges ayant pris leur lampe à l'air à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans le vase. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on s'écria. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour. Hébreux 12, 15 à 17, la Bible dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Esaü qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir n'ait pu avoir aucun effet. » Jérémie 18, 18 à 20. « Et ils ont dit, venez complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute des sacrificateurs, ni les conseils faute des sages, ni la parole faute des prophètes. Venez, tuons-le avec la langue, ne prenons pas garde à tous ses discours. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de venir vers toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une miraille de reins. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Acclamons la parole de Dieu. » Nous allons reprendre place. En fait, c'est depuis deux semaines que nous sommes en train de développer un thème, la prière à la lumière de la marche des enfants d'Israël dans les déserts. Je ne vais pas récapituler ce que je prêchais au courant de la semaine. Vous pouvez retrouver ça sur la page Facebook de l'Église. Aujourd'hui, je veux me focaliser sur un sous-thème que j'ai personnellement choisi, qui va beaucoup nous aider dans notre marche chrétienne. Et le sous-thème que nous allons développer aujourd'hui, c'est la culture de la présence de Dieu. La culture de la présence de Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à dire à celui qui est à côté de toi la culture de la présence de Dieu? Les enfants d'Israël, ils ont quitté l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Et au-delà de la mer Rouge, la Bible dit, il fit un cantique et il commençait à chanter et Myriam les accompagnait. Mais quelques jours après, ils commençaient déjà à parler en mal contre Dieu. Les mêmes enfants d'Israël, après un temps, ils ont combattu contre Amalek. Et après cela, ils ont encore parlé en mal contre Dieu. Ils ont vu le miracle de Dieu. Mais quand ils ont vu le fils d'Anak, ils se sont vus comme des sauterelles à leurs yeux. Et Dieu leur a dit, je vous traiterai selon ce que j'ai entendu de vous. Et ces jours-là, ils ont fait encore 40 ans dans les déserts. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir une chose. Il y a une chose qu'il faut vraiment différencier. C'est expérimenter la présence de Dieu, mais aussi maintenir cette présence de Dieu que tu as expérimentée. La plupart des enfants de Dieu, ils peuvent vivre la présence de Dieu. Ils peuvent vivre le miracle de Dieu. Mais après juste le miracle, il y a des choses qui arrivent dans leur vie et ils sont en train de perdre la présence de Dieu. Et ma prière aujourd'hui, c'est qu'après cette prédication, que tu sois un enfant de Dieu, que tu sois un papa ou une maman qui sait cultiver la présence de Dieu dans ta vie. Et pour cultiver la présence de Dieu, nous allons développer trois grands points. Je serai en train de citer les points et je développe. Je cite les points et je développe. Le premier point pour développer la culture de la présence de Dieu dans nos vies, nous devons vivre la sanctification en trois dimensions. Je vais vous expliquer cela. Nous devons vivre la sanctification en trois dimensions. Et la première dimension que nous allons voir aujourd'hui, c'est la dimension positionnelle. En d'autres termes, la dimension de recevoir d'abord Jésus dans nos vies. Vous savez, quand vous recevez Christ dans vos vies, vous devenez directement des saints aux yeux de Dieu. Les Corinthiens qui étaient des désordonnés, c'est l'une des églises les plus désordonnées de la Bible. Mais Paul est en train de les appeler les saints de Corinthe. Pourquoi? Parce que simplement, ils ont cru en Jésus. Le fait de croire en Jésus, il y a déjà une sanctification qu'on appelle la sanctification par position. C'est la première sanctification que tout homme devra rechercher dans sa vie. Ça, c'est la première dimension. Et ça, c'est la dimension de bébé spirituel. C'est la dimension de quiconque croit en Jésus. Il y a maintenant la deuxième dimension de la sanctification. C'est la sanctification des renoncements aux œuvres mortes.
Bien-aimé, si tu veux maintenir la présence de Dieu dans ta vie, apprends à renoncer aux œuvres mortes. Nous avons marre de voir ces chrétiens qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais quand tu vois leur vie, tu vois qu'il est encore un païen, que cette personne ne vit pas réellement la vie chrétienne. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Quand tu vois un chrétien, tu sais. Tu n'as pas besoin de nous expliquer que tu es chrétien. On a envie de te voir et on va comprendre que tu es chrétien. Vous savez, un vrai chrétien, même quand il est au milieu des païens, même les païens savent le rappeler qu'il est chrétien. Mais ton problème, tu as besoin de te justifier que tu es enfant de Dieu. La Bible dit, une maison bâtie sur une montagne est visible. Donc si tu es enfant de Dieu, ça se verra à l'œil nu. Il y a des personnes, quand tu es à la maison, on te dit, quand on vient te voir, les frères de l'église, et quand on t'appelle frère en Christ, les gens qui sont à la maison, ils sont étonnés. Et ils disent, si lui, il va au ciel, nous irons au ciel à pied. J'aimerais dire à quelqu'un, un enfant de Dieu, quand tu vois, tu sais. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui développe les renoncements aux œuvres mortes. Vous savez le problème avec les enfants d'Israël. Pourquoi ils n'ont pas pu maintenir la présence de Dieu dans leur vie? C'est simplement parce qu'ils n'ont pas pu renoncer aux œuvres mortes. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, tu peux quitter l'Égypte dans un jour, mais pour que l'Égypte quitte ton cœur, il te faut 40 ans. Tu peux recevoir Jésus maintenant, mais pour que le monde quitte ton cœur, papa, il te faudra vraiment t'approcher de Dieu et avoir la culture d'un militaire, quelqu'un qui est très discipliné pour oublier ce que tu étais en train de faire auparavant. Le problème avec les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est que nous sommes devenus des Égyptiens. Les Égyptiens, quand ils aimaient un mort, ils les momifiaient. Alléluia. Et quand ils momifiaient un mort, ils les gardaient quelque part pour les contempler de temps en temps. Et c'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu font aujourd'hui. C'est que tu as abandonné l'alcool, mais à chaque fois, même quand tu prends, il quitte tout. Aïe, ni mungu tout. Donc, on remarque que ça te manque. Bien-aimé, tout enfant de Dieu, il doit être quelqu'un qui sait enterrer le péché. Quand quelque chose ne passe pas par la momification, ça passe par la putréfaction. Et quand ça passe par la putréfaction, tu ne peux pas rester avec le péché. Tu dois l'enterrer quelque part. Et aujourd'hui, je suis venu dire à un enfant de Dieu, il est temps que tu enterres ce péché. Un bon enfant de Dieu, il a honte du péché. Il a honte de dire même ce qu'il était en train de faire, parce que c'est honteux. Il y a des personnes, quand ils font des témoignages, je suis étonné. Comme un idiot, mungu basi tu. Mais mungu hangelikuwa. On a sema ouyu kaka ouyu. Mungu akasema tu siko. Il va facilement revenir dans son ancienne vie. Ça, c'est la deuxième dimension. Cher enfant de Dieu, vous voulez maintenir la présence de Dieu. Apprenez à renoncer aux œuvres mortes. Quelqu'un qui ne renonce pas aux œuvres mortes, il restera dans la dimension du parvis avec la cuve des reins. En d'autres termes, à chaque fois qu'on priera, tu seras en train de te repentir. Tu ne grandiras jamais. Vous savez, quelqu'un qui est habitué à la frontière, c'est quelqu'un qui voit souvent sa carte. Vous savez, quand tu es dans la ville, là, tu ne remarques pas que tu as une carte. Mais quand tu es à la frontière, tu as envie de voir si tu as vraiment ta carte. C'est la même chose aussi pour une personne qui vit encore dans le monde, mais qui veut être en Dieu. À chaque fois que tu pries, ça sera toujours la sanctification. Mais lorsque tu grandis spirituellement, il arrivera un temps, tu commenceras à dire comme David, « Seigneur, regarde dans mon cœur si j'ai péché. » Tu commences à remarquer, est-ce qu'il y a quelque chose encore de mauvais dans mon cœur? Est-ce que tu peux m'aider à dire à celui qui est à côté de toi, tu dois arriver à cette dimension? Il y a une dimension où tu commences à te rappeler quand est-ce que j'avais péché. Il y a cette dimension, mes frères. Il y a cette dimension, ma sœur. Je sens que Dieu n'est pas là. Nous devons encore nous repentir pour la deuxième fois. Et après un temps, pour la troisième fois, pour la quatrième fois. Il n'y a même pas de louange, c'est la repentance. J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu ne renonces pas aux œuvres mortes, tu resteras dans le parvis. Vous vous rappelez des prières de parvis, non? Voilà. Ce qui était là à la veille, c'était terrible. La prière de parvis. Même quand tu veux prier pour tes enfants, Seigneur Jésus, je prie pour mes amungu nisame baba. J'aimerais dire à quelqu'un, apprends à renoncer aux œuvres mortes, tu vas progresser même dans la prière. Les gens qui font l'intercession, il faut les respecter. parce qu'une personne qui prie pour quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui a déjà fini avec lui-même. Alléluia. Et la troisième dimension de la sanctification, c'est la dimension de la sanctification progressive. Je vais vous expliquer cela. La sanctification progressive, je lis 2 Corinthiens 3, le verset 18. La Bible dit, « Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Colossiens 3, le verset 10, la Bible dit, « Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » J'ai besoin d'une personne ici devant, quelqu'un du média, lui il est trop souple, hein? Viens. Regarde le peuple de Dieu. Vous le voyez tel qu'il est là? C'est comme ça que tu étais aussi avant de recevoir Jésus. Enlève-moi le truc là du média, enlève le truc là. Ça c'est le vieil homme. Quand tu reçois Jésus, tu deviens un homme nouveau. Tu es vêtu en blanc. Mais imaginez que ce frère commence à manger chaque jour les sommets, chaque jour la sauce. Ça va salir son habit. Cet habit, quand tu prends, tu amènes ça à pressing, ça devient encore beaucoup plus blanc. Tu amènes ça à pressing, ça devient encore beaucoup, beaucoup plus éclatant. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Nous avons tous reçu Jésus. Nous avons l'homme nouveau. Mais l'homme nouveau à nous se distingue par notre progression dans la sanctification. C'est pourquoi quand tu lis 1 Corinthiens 15, la Bible dit « Même les étoiles ne brillent pas de la même manière. » Bien-aimé, toi qui vis encore dans le péché, tu combats encore le péché, tu ne te renouvelles pas chaque jour. Même à ta mort, on remarquera cela. C'est comme un enfant qui ne mange pas bien. Quand tu vois, tu sais. Voilà, Manuel, ça jaune. Mais quand il mange très bien, tu remarques aussi, tu dis, cet enfant, certainement, il y a des mayonnaise dans leur maison. Certainement, il y a des hamburgers. Cet enfant ressemble aux hamburgers. Ça sera la même chose. Quand nous irons au ciel, les gens vont se distinguer. La Bible dit, certains brilleront comme la splendeur du ciel. Les autres brilleront comme des firmaments. La différence, c'est où? C'est quand tu commences à vivre la sanctification progressive. Et cette sanctification, c'est l'homme nouveau en nous qui se renouvelle chaque jour. Merci, Média. Reporte les vieux hommes, papa. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Apprends à progresser dans la sanctification. C'est très important. Quelqu'un qui progresse dans la sanctification et que son homme nouveau progresse, c'est quelqu'un qui ne combat pas le péché parce qu'il l'aime, mais il combat le péché parce qu'il le déteste. Écoutez bien ce que je dis. Il y a des dimensions. Vous savez, il y a quelqu'un qui combat le péché. Tu combats tellement l'impudicité. Seigneur, retiens-moi, sinon je vais tomber. Seigneur, je suis là. Ça me manque, mais je ne veux pas. Papa, là, tu es encore en train de combattre les œuvres mortes. Quand tu arrives à la dimension de la progression, même quand tu vois quelqu'un pécher, tu sens la colère sainte. Alléluia. Quand on te montre l'alcool, avant même que tu ne touches, tu commences à avoir des sueurs. Bina sa chouka, jacho, inon te temeke a zambi. Bwana Yesu asifiwe sana. La deuxième chose, à part la progression dans la sanctification, pour maintenir la présence de Dieu, c'est ce que les enfants d'Israël n'ont pas pu faire dans leur marche, c'est la gestion de mise en veille spirituelle. Je vais vous expliquer cela. La gestion de mise en veille spirituelle. La Bible dit, c'est Jésus qui est en train de dire dans Jean 9, le verset 4, il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. Bien-aimé, même Jésus reconnaît qu'il y a toujours des temps de pause. C'est comme une pause dans ta vie chrétienne. Le temps où tu veux prier, mais ça ne marche pas. Le temps où tu ressens que tu es trop faible. Et alors, comment gérer ce genre de moments dans la marche chrétienne? Si tu parviens à gérer les moments de mise en veille, crois-moi, tu seras un très, très, très bon chrétien. La Bible déclare dans Psaume 4, le verset 5, là, c'est là où j'ai tiré trois leçons sur la gestion de mise en veille spirituelle. La Bible déclare, tremblez, dans d'autres versions, c'est 4, dans d'autres versions, c'est 5. Tremblez et ne péchez point. Parlez en votre cœur sur votre couche, puis taisez-vous. Amen. La première chose pour gérer la gestion de mise en veille, soit quelqu'un qui peut trembler devant le péché, mais prend la décision de ne pas pécher. Ça, c'est la première chose. Pourquoi? Quand la nuit arrive, nous avons des tentations. Quand nous sommes dans des moments de faiblesse, nous avons des tentations. La Bible nous dit, vous pouvez trembler. Oui, des fois le péché nous fait trembler. Mais prends la résolution de ne pas pécher. La deuxième chose, c'est développer la vie de prière silencieuse. Vous savez, il nous arrive tous, si je vais prier à haute voix, ça ne marche pas. Bien-aimés, apprenez à développer des prières cardiaques. Alléluia. Tu es sur ton lit, tu ne parviens pas à prier, apprends à faire prier ton cœur. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Des moments difficiles arriveront toujours, mais sois quelqu'un qui sait faire parler ton cœur. Dis à ton cœur, tu vas prier. Même si la bouche est lourde, même si j'ai sommeil, dans ton cœur, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui sait écouter ta voix, il sait écouter aussi la voix de ton cœur. La troisième chose, c'est savoir se taire. Vous savez, quand on est dans des moments difficiles, des fois c'est quand nous voyons des scandales sur les réseaux sociaux. Il faut apprendre à te taire. Quand tu parcours des moments difficiles, il faut apprendre à te taire. Car la plupart des personnes savent bien regretter ce qu'ils ont dit pendant leurs moments de faiblesse. La quatrième chose, ça je l'ai tiré dans notre passage de base de Matthieu 25. Pour faire la bonne gestion des mises en veille spirituelles, il faut développer des prières de réserve. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, il existe des prières de réserve? Ma sœur, pendant que tu n'es pas encore maman, va à la retraite, va à Mouressa. Tu n'es pas encore maman, vas-y. Fais des prières de réserve. Un jour, tu voudras prier, l'enfant pleure. Tu voudras prier, le mari te dit « pas maintenant ». Et quand il te dit « pas maintenant », même quand tu pries, Dieu ne t'écoutera pas. Jeunes frères, apprenez à racheter le temps. Tu es encore à la maison, tu ne donnes pas la ration. Commence à prier pendant ce temps-là. Il y a un temps, tu veux prier, on te dit « yabusiko abiko ». Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, faites de prières de réserve. Vous savez, la différence entre les vierges folles et les vierges sages, c'est que les unes ont joué à la cigale, les autres ont joué à la fourmi. Vous vous rappelez la cigale et la fourmi? Hein, vous vous rappelez? C'est ça la différence. Toutes étaient vierges, toutes entendaient le Seigneur, toutes étaient là. Mais la seule différence, c'est que les unes ont fait la fourmi, les autres ont fait la cigale. Écoutez, la Bible est en train de dire que les vierges folles, elles avaient l'argent, mais elles n'ont pas pu acheter pendant qu'elles avaient l'argent. Mais les sages avaient acheté de l'huile en réserve. J'aimerais dire à quelqu'un, apprends à faire des réserves spirituelles. Pendant qu'il est encore jour, apprends à prier. Pendant que tu peux jeûner, apprends à prier. N'attends pas AVC pour prier. N'attends pas que les choses soient trop tard pour prier. Il y a des gens qui attendent, pasteur, que les jours-là, ils veulent mourir. C'est à ce moment-là qu'ils vont réparer avec Dieu. Qui t'a dit que tu sauras même parler? En d'autres termes, apprends à faire des réserves spirituelles. Apprends à faire des réserves de prière. Apprends à faire ce genre de réserves. C'est très important. Pendant que tu es encore jeune, pendant que tu as encore un bon travail, apprends à prier, apprends à s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Apprends à le faire pendant qu'il est encore jour. La Bible déclare ceci, Proverbe 10, le verset 5. La Bible dit, celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait la honte. Apprends à faire de prières de réserve. Tu n'es pas encore occupé, apprends à prier. Il arrivera un temps où tu seras en train de prier 2 minutes et tu vois Dieu agir, tu penses que c'est ta prière de 2 minutes. Non, tu avais des réserves que tu avais, tu avais des réserves. 3 choses qui vont nous aider à maintenir, à cultiver la présence de Dieu autour de nous, c'est la gestion de blessures du cœur. J'aimerais m'arrêter par là, la gestion de blessures du cœur. Les dangers de blessures du cœur, c'est quoi? La première chose, nous nous privons de la grâce de Dieu. Hébreux 12, le verset 15, la Bible dit, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume. » Vous savez, lorsque nous lisons ce passage, des fois nous pensons que Dieu ne fait pas grâce. Non, Dieu fait grâce. Mais une chose qu'il faut savoir, même si la grâce elle est gratuite, Dieu ne gaspille pas sa grâce. Même quand Dieu multiplie les pains, ce qui reste, il prend soin des restes, il prend soin de le mettre dans le panier. Il y a même des hommes de Dieu qui ont des blessures intérieures. Un pasteur, un jour, il est en train de prêcher, il a la grâce de Dieu. Et après, qu'est-ce qu'il commençait à faire? Tu viens en retard, il enlève sa ceinture, il te frappe. Christ, bana ruka mudirisha, bana kimbia. Il les frappe et les gens commençaient à quitter l'église, les gens commençaient à partir. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, les blessures intérieures, c'est l'une des choses les plus mauvaises qui empêche l'homme à demeurer dans la présence de Dieu. La deuxième chose, deuxième danger des blessures intérieures, c'est que nous faisons des choix que nous regrettons après un temps. Je me souviens un jour, je suis allé au village, je me suis rencontré avec certaines filles, elles sont devenues de métisses. Je me suis dit, où est-ce que elle a des blessures, on la disait qu'elle est tellement noire qu'elle a pris une lotion éclaircissante et après un temps, il y a des tampons. Tu commences à regretter tes choix. Écoute, les blessures de cœur, c'est très compliqué. Il y a des personnes, depuis que tu es né, on te dit que tu as une tête comme la chaise de vélo. Et désormais, tu mets des bonnets. Et puis, tu te rencontres avec un garçon ou avec une fille qui te complimente tellement. Tu te dis, waouh, je me donne tout à toi. Et quand tu te donnes tout à lui, après cela, il te rappelle aussi que tu as cette tête-là. Et tu regrettes le choix que tu as fait. La plupart des filles qui se font défrôler, la plupart des hommes qui touchent à l'alcool, aux drogues, c'est à cause de blessures du cœur. Le troisième danger, c'est que les autres sont victimes de nos blessures. C'est ce que la Bible dit dans notre passage de base, Hébreux 12, le verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. En d'autres termes, quand toi tu es blessé, c'est ton voisin qui souffre. Je me souviens d'une maman là, très compliquée. Que Dieu te fasse grâce, que tu ne puisses pas avoir des blessures dans ta vie. C'est très compliqué. Cette maman là, tu peux sourire, ça devient un problème. Unanicheka. Niambilie unanichekea nini? Tu lui donnes la nourriture, elle dit unataka niua, umko sumu. C'est quoi jina la Yesu? Et même quand tout va bien, elle voit que tout va mal. Elle fait des crises de paranoïa. J'aimerais dire à quelqu'un, les blessures intérieures sont très très dangereuses même pour maintenir la présence de Dieu dans ta vie. Imagine-toi que tu es en train de prier, tu pries, Dieu ne t'exauce pas, tu as des blessures, tu dis, namista kuomba katena. Il y a des gens comme ça. Et maintenant, comment éviter les blessures du cœur? Première chose, pour éviter les blessures, apprends à garder ton cœur et à demander à Dieu un cœur d'airain. Moi, j'avais un problème il y a plusieurs années. J'avais un problème de blessure du cœur. C'est que si tu me disais une chose, ça pénétrait directement dans mon cœur et le cœur commençait à me faire mal. Et j'ai pris une retraite. J'ai dit à Dieu, Seigneur, donne-moi une miraille des reins. Aujourd'hui, vous pouvez vous lever contre moi, vous parlez contre moi, j'avance dans ce que je suis en train de faire. Vous savez, le diable, il sait très bien que tu es facile à pénétrer par la parole. C'est ça le problème aussi avec Jérémie. Jérémie, c'est l'un des prophètes que Dieu avait appelé étant trop jeune. Et il avait beaucoup de blessures. Et écoutez ce que ses adversaires étaient en train de dire. Allons, tuons-les avec la langue. Et donc, il savait qu'avec la langue, on peut tuer. Oui, avec la langue, on peut tuer. Mais pour ce genre de choses, si tu sais que les paroles pénètrent facilement ton cœur, va demander à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, je vais garder mon cœur. Je mets une miraille de reins sur mon cœur. Bien-aimé, on va t'injurier, tu vas avancer. On va parler mal de toi, tu ne quitteras pas l'église. Il y a certaines personnes qui quittent l'église comme ça. On a donné juste un exemple qui ressemble à son exemple. Directement, il quitte l'église. Bananza toubiri amoul. Chienobiko nasema. J'aimerais dire à quelqu'un, apprends à avoir un cœur d'airain. La deuxième chose pour éviter les blessures du cœur, c'est apprendre à t'écarter des personnes qui te blessent. Alléluia. Si c'est possible, apprends à t'écarter de ce genre de personnes. Les personnes, quand ils te voient que tu es toujours nul. Même quand tu fais un test, ils te disent « Iboro konya bongo ». Apprends à abandonner ce genre d'amis, des gens qui ne croient pas en toi. La plupart des personnes ne savent pas évoluer dans la vie parce qu'il y a toujours des personnes à côté de leur vie qui les rappellent toujours qu'ils sont trop bas. Bien-aimé, j'aimerais te dire que toute chose qu'on dit sur toi ne t'avantage pas toujours, pour ne pas dire jamais. Ça ne t'avantage pas toujours. Quand tu trouves que ça te blesse, apprends à te séparer de ce genre de personnes. Tu dois protéger ton cœur. La troisième chose, je vais finir par là, c'est de te décharger sur Dieu que sur les hommes. Alléluia. Il y a des mamans qui sont ici, quand elles ont des problèmes dans leur foyer, elles vont directement raconter cela aux autres femmes. Et puis après, tu te racontes sur TikTok. Ça te blesse encore davantage. Mais j'aimerais te dire, il y a quelqu'un à la droite du Père. Il y a un homme à la droite du Père. Il y a quelqu'un là-bas, il s'appelle Jésus. Et depuis 2000 ans, il ne fait que prier pour toi. Alors pourquoi ne pas te déverser à Jésus? Vous savez, la plupart des personnes qui sont vraiment blessées, ce sont des gens qui n'ont pas de vie privée. Ce sont des gens qui apprennent à dire leur vie sur les réseaux sociaux. Ils apprennent à dire leur vie auprès de leurs amis. Ce sont des gens qui sont vraiment, vraiment blessés. Nous sommes debout dans la présence de Dieu. Tu vas répéter cette prière après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Aide-moi à maintenir ta présence dans ma vie. Aide-moi à maintenir ta présence dans ma vie. Laisse-moi vivre les trois dimensions de la sanctification. Que je puisse gérer très bien mes moments de lourdeur spirituelle. Et que les blessures du cœur ne puissent plus avoir de l'impact dans ma vie. Mais que je puisse avancer avec toi. Au nom de Jésus, que Dieu bénisse sa parole. Amen.